Tout ce qu'on chante, chaque note, chaque parole, c'est pour honorer, c'est pour élever Jésus au milieu de nous. Amen. Je voudrais vous parler ce matin, maintenant que l'été est presque fini, que nous avons parlé aux enfants. Je me suis efforcé de faire des cultes accessibles aux plus petits. Donc les grands ont pu recevoir quelques paroles quand même. Mais maintenant c'est fini l'été, c'est la rentrée. Il faut reprendre le chemin de l'école. Et je crois que j'ai une leçon pour vous ce matin, et pour moi d'abord en premier, une leçon d'école très importante. Les armes du chrétien. Reprendre la sacoche de l'écolier, le porte-plume, le portable si vous voulez. Enfin, il faut reprendre nos ustensiles et le chrétien, il a des armes. Alors, nous allons faire une lecture dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Épître aux Éphésiens, une très très belle épître que je vous recommande d'apprendre même par cœur. Éphésiens 6, verset 10. Nous lisons, nous photographions bien chaque parole. Tout est important. Des hommes ont passé toute une vie à regarder ces paroles. Et des générations par dizaines se sont succédées en regardant simplement les paroles, et en les vivant, dans les petites choses, les grandes choses de la vie. Vous avez trouvé, Éphésiens 10, verset 6. Pardon ? J'ai dû me tromper. Je ne réagis pas, mais vous réagissez. Je n'ai pas dit Éphésiens 6, verset 10 ? Ah, voyez-vous, je l'ai dit. Bon, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Bénis ta parole, ton serviteur, tes enfants, les frères et sœurs de l'Église, afin que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard, ce que nous devons faire, ce dont nous devons nous défaire, tout ce qui doit être rectifié, changé, amélioré dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Oui, il y a des ennemis de l'Église. Il y a des ennemis du Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous donne des armes. Quand on commence à se réarmer, c'est toujours un signe de guerre. Et nous sommes dans une guerre. Jésus, avec d'autres mots, nous a parlé du voleur qui disperse, le loup qui ravit, qui égorge, etc. Donc nous avons des ennemis. Personnellement, j'ai pas d'ennemis comme ça, visiblement. Nos ennemis, c'est la mentalité du monde, la civilisation qui se dégrade. Ça pourrit partout. Nos ennemis, c'est le monde, l'esprit du monde, qui est un esprit antichrist. Nos ennemis, c'est Hérode, des hommes comme ça, un peu, qui font du mal à l'œuvre de Dieu. Nos ennemis, c'est l'indifférence, l'incroyance, qui nous font pleurer. Nos ennemis, c'est l'égoïsme, qui ferme tout. Il y a un combat à l'extérieur, un combat contre tout ça, contre la misère, l'incroyance, et à l'intérieur de nous, il y a un combat. Il faut changer notre façon de faire. Il faut s'améliorer. Il y a des péchés qui se promènent. Et puis, il y a un autre ennemi. Un ennemi que nous ne pouvons pas vaincre sans les armes de Dieu. De Dieu. C'est-à-dire sans Dieu. Cet ennemi, l'apôtre l'a dit clairement, c'est le diable. Le diable et ses manœuvres, sa façon de faire, de nous tromper, de nous séduire, de faire briller l'argent, la réussite, le succès, la facilité. Il fait briller des choses. Ça nous touche. Et derrière, parfois, pas toujours, il y a un serpent. L'apôtre Jean a dit dans son épître, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier. Prendre du recul avec beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas sous-estimer la force de Satan. Ce n'est pas un jeu. Il y a des chrétiens qui en ont perdu leur éternité. Ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas sous-estimer la volonté du diable, même si on est bien dans le Seigneur. Mais sa volonté, c'est quand même de nous disperser et de nous détruire et de nous tromper, de nous faire sortir des rails. On déraille. Faire sortir le train de ses rails. Alors, nous sommes dans ce combat. Et ça nous demande du discernement, ça nous demande des efforts, de l'engagement, sacrifier du confort, du temps. On veille, il faut surveiller, il faut faire attention, il faut se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Je trouve que parfois, on parle pas assez du diable. Il ne faut pas en parler tous les dimanches. Le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est pas lui. On fait le mal et on ne pense pas que derrière, le diable tient les ficelles. Il nous fait gigoter, mais on ne sait pas que c'est le diable. Ou parfois, on parle du diable, mais pas comme il faut. Pas comme Jésus en parle. On parle du diable, mais on se trompe. Enfin, il nous trompe, parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il nous trompe. Puis on nous croit que c'est ça, parce qu'on a une tradition, des coutumes, etc., des pensées, et on pense que c'est comme ça. Alors, on parle mal du diable, pas comme il faut, ou alors on n'en parle pas du tout, voyez-vous. faire attention. Mais nous avons un combat à mener, comme les enfants d'Israël résistaient à Amalek, un combat à mener comme les enfants d'Israël se battaient contre les rois de Canaan pour posséder la terre promise. Mais quand je lis ce texte que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai déjà médité avec vous, mais là je fais toutes d'autres paroles, c'est pas seulement Dieu qui lutte contre le diable, c'est pas seulement Jésus. Il nous donne à nous de quoi lutter nous-mêmes. Il nous donne des armes. Dieu luttait avec Jacob et Jacob luttait aussi. Dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie, etc., etc. Donc ça veut dire, s'il y a à celui qui vaincra, c'est qu'il y a un combat des églises de l'Apocalypse de nous. Ils l'ont vaincu, dit l'Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire en croyant que le Christ a remporté la totale victoire. Et ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Alors, on se bat. Enfin, on ne se bat pas vraiment, vous comprenez? C'est pas un match de boxe. Il y avait parfois des frères qui faisaient la boxe avec le diable. C'est rigolo, ça, mais c'est pas ça. On ne se bat pas réellement avec nos muscles, nos paroles, nos cris. On prend les armes de Dieu. Et rien que ça, ça met le diable en fuite. Rien que ça, ça permet à Dieu d'agir. Rien que ça, ça nous fait tenir ferme. Mais ce n'est pas jouer de l'escrime avec Satan. Je lis la Bible, toc, c'est mon arme. Je conclurai avec cette parole. Les armes de Dieu, ce sont des grâces que Jésus nous donne. C'est le caractère de Jésus qui est en nous. C'est sa personnalité en nous. Et on en a besoin. Surtout dans le mauvais jour. Parce que dans le mauvais jour, et je crois que le mauvais jour, c'est aujourd'hui, la pression est encore plus forte. Et n'oubliez surtout pas que chaque péché nous met en contact avec le monde des ténèbres. Derrière chaque péché de pensée, de parole, d'acte, quelqu'un qui tire les ficelles. Il y a des racines profondes. On regarde la panoplie, ça s'appelle une panoplie, l'armement. J'ai fait mon service militaire pendant 16 mois. Bon, on n'avait pas grand-chose. J'ai fait des chaussures, une tenue de combat. Rassurez-vous, je n'ai pas fait la guerre. Mais enfin, on avait une tenue. Et là, il y a une panoplie. Il y a la ceinture de la vérité, en premier. Il faut même garder l'ordre. Il y a toujours un ordre dans ce que Dieu fait. La vérité, c'est tout ce que Dieu, tout ce que Jésus nous dit de lui. C'est tout ce que Jésus dit de nous. Et cette ceinture de la vérité, cette vérité, elle tient nos pensées bien solides, nous permet de ne pas divaguer, errer, rêver, cauchemarder. La vérité nous tient comme la ceinture qui tient le corps ferme. Ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer sans hésiter, sans être gêné. Il y a une ceinture, vous voyez. Les Romains avaient une ceinture très large. Donc la vérité nous permet d'avoir une vie cohérente, calée, cadrée. Les yeux en face des trous. Que dis-tu, Seigneur ? Moi, je fais ça parce que ça me fait plaisir, mais que dis-tu, Seigneur ? la vérité recale nos pensées. Mais il y a aussi, ça c'est une arme aussi en même temps, la vérité de Dieu, mais nos vérités, c'est-à-dire notre sincérité. Je pense que ça fait partie des armes. Notre sincérité, notre droiture de cœur et de pensée. Je reviens à 1 Jean, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il se garde et le malin ne le touche pas. Donc il reste dans une vie sincère, vraie, authentique. Il n'ouvre pas la porte, pas de porte ouverte au mal, pas de brèche. Ne laissez pas les brèches ouvertes dans votre vie. Bon, c'est la ceinture, vous avez compris. C'est la vérité qui joue sur nous, qui nous fait de nous des hommes, des femmes de vérité. La cuirasse de la justice. La cuirasse, elle était solide, elle couvrait tout le corps, le dos, le ventre, le cœur. Et dans la Bible, cette cuirasse représente la pureté que Jésus nous donne. Pardon, la sainteté. Alors on peut nous accuser, nous humilier. Jésus répond, c'est réglé, c'est fait, c'est ok, c'est mon enfant. Je l'ai choisi, je l'ai purifié, je l'ai lavé, vos péchés vous sont pardonnés. Voilà, voilà pour répondre aux accusateurs. Parfois ce sont des pensées de culpabilité. Pour répondre à tout ça, nous avons cette arme, c'est réglé, tout est accompli. Mais nous avons un rôle à jouer, évidemment, comme dans la ceinture. Il faut que notre vie soit intègre. C'est réglé, mais il ne faut pas jouer avec le malin, il ne faut pas faire le malin. Il faut une vie intègre, une bonne conduite, irréprochable, afin, dit l'apôtre Paul, que l'adversaire, le diable, n'ait aucun mal à dire de nous. Parce que s'il y en a un qui nous connaît, c'est lui. Et devant lui, je pense que on est à nu. Oui, il fait ça, il s'agite, mais en fin de compte, il fait le mal, il blesse, il fait mal. Voilà. Eh bien, l'apôtre dit, soyez irréprochables afin que l'adversaire ne dise aucun mal de nous. Une conscience sans reproche. Ben, ça, c'est la cuirasse solide. Les chaussures du zèle. Mettez à vos pieds les chaussures du zèle de l'Évangile. Littéralement, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions, la bonne volonté que l'Évangile vous donne. La bonne volonté, ça veut dire quoi ? La bonne volonté, de l'élan, du courage, du bon cœur, la promptitude. Je suis là, tu peux compter sur moi. Que veux-tu ? L'Évangile est une puissance qui nous donne une fermeté, une stabilité. Fermeté dans les tentations, fermeté dans les difficultés. Je dirais une facilité d'action. Si on n'a pas les chaussures du zèle, les chaussures du courage, les chaussures de la bonne volonté, je pense qu'on ne va pas s'engager, Vous avez déjà marché sur des cailloux sans vos chaussures, pieds nus ? On a peur de se couper, on a peur de se blesser, on ne marche pas vite, on fait du surplace, on ne regarde que nos pieds. On a peur de ne pas être à la hauteur. Mais l'Évangile nous donne du courage. On est prêt à agir pour aider, pour évangéliser, prêt. Le Seigneur avait appelé Jacques et Jean, ses apôtres, Boanerges, ça veut dire les fils du tonnerre. C'était des apôtres du tonnerre. Ce n'étaient pas des apôtres foudroyants, mais c'était des apôtres qui étaient « Je suis prêt, moi je veux bien, Je suis d'accord. Voilà. Des apôtres toujours prêts. Alors, si vous avez cette bonne volonté, je pense que vous aurez une marche avec le Christ et l'Église pleine d'assurance. Vous ne chancellerez pas. Vous ferez du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. On continue de passer à la couture. On y va? La ceinture? Les chaussures? Le bouclier? Non. La cuirasse. Maintenant, le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Les Romains, parce que l'apôtre Paul, quand il a écrit cet épître-là, il était en prison entre deux soldats. Et il voyait leur armure, leur casque, leurs chaussures, il voyait tout ça. Et puis en écrivant, il y a eu aussi une inspiration du Saint-Esprit, évidemment. Et il parle du bouclier de la foi. Chez les Romains, c'était un grand bouclier d'1,20 m, très grand, très lourd. Ça représente la foi qui est extraordinaire dans notre vie. Et le bouclier des Romains, il arrêtait les flèches enflammées. Pour toucher une ville, on faisait des flèches, on mettait de la filasse de lin au bout, qu'on entremêlait, on mettait de la résine de bouleau, de la résine de sapin sur le bout de la flèche, on mettait le feu, tchouk tchouk, et on envoyait la flèche. Et la flèche, elle mettait le feu dans les maisons, elle mettait le feu dans la ville. Et les Romains, ils ont fait des boucliers avec des peaux humides. Tac, ça arrêtait la flèche, tac, ça arrêtait le feu, tac, ça éteignait le feu. Pas mal, hein? Mais je crois que nous avons des flèches enflammées qui nous traversent le cœur, des mauvaises pensées impures, impudiques. Nous avons des pensées de doute, nous avons des pensées de rébellion. Et ces pensées-là, quand ça s'installe, ça tourne, et pendant des jours et des nuits, ça met le feu. Et nous avons des convoitises, et des méchancetés, et des craintes. Puis les flèches, c'est aussi des paroles malveillantes qu'on nous a dites, des paroles blessantes qui brûlent en nous, qui nous détruisent notre joie. Ce sont nos pensées qui divaguent. C'est tout ça, les flèches. Mais il y a le bouclier. Présence de Dieu avec nous. Le bouclier, c'est sur lui que tape la flèche. Jésus a pris tout sur lui à la croix. Et il a éteint. Le bouclier de la foi, ça veut dire la conviction que la foi dans le Seigneur va éteindre le feu. Et le doute. Le doute, c'est l'œuvre du diable. La foi, c'est l'œuvre de Dieu. Le doute, depuis le début, Dieu a-t-il réellement dit? Mais la foi permet d'éteindre. La foi, ça voit le danger. La foi dit, et ça crie au secours, Seigneur, j'ai un problème. Mon cœur est blessé, le psaume 109. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Seigneur, agis vite en ma faveur. Bouclier. Mon cœur est blessé, on m'a fait mal. Agis vite en ma faveur. Le bouclier. Parfois, on a des flèches d'obscurité. On ne comprend plus rien. On ne sait plus où on est. On ne comprend plus sa vie parce qu'on nous a envoyé des flèches qui nous ont perdu l'esprit. Mais le Seigneur se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Amen. Il est la lumière et mon salut. Et puis, chez les Romains, les boucliers s'emboîtaient, se clipsaient. On pourrait dire aujourd'hui, ça se clipse, se clipsait. Donc, bouclier contre bouclier, contre bouclier, contre bouclier. Ouh, c'était un mur. Et les flèches, tchouk, tac, tac, est tapée sur le mur. Elle ne rentrait pas dans l'armée romaine. Et je pense que ça représente, clic, la prière. 2, 3, 4, 5, 40, 100, 8000. La prière, tous ensemble, on fait un immense mur aux flèches de Satan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, votre casque. Il ne faut pas oublier le casque aujourd'hui. Mais là, c'est le casque du soldat, le casque du salut. Pourquoi un casque? On a un bouclier déjà, c'est pas mal. Le diable vise nos pensées. Le diable vise la tête quand il arrive à perturber nos pensées. Eh bien, il est vainqueur. Mais la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Le casque du salut, c'est-à-dire la protection. Toujours se dire, je suis sauvé. Le Seigneur m'a sauvé et il me sauve chaque jour. Chaque jour, il fait quelque chose pour moi. Il n'est pas parti en vacances. Il n'est pas sur la plage. Enfin, il est sur la plage aussi. Mais chaque jour, il fait quelque chose pour moi. Quand je suis abattu, il me sauve. Quand je suis triste, il me sauve. Quand je suis dans les tentations, il me sauve. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Amen. Il est le Dieu de notre salut. L'épée. Ah, parce que ce n'est pas des armes, des chaussures. Ce n'est pas une arme, une chaussure. Un bouclier. Une ceinture. Pour l'instant, ce ne sont pas vraiment des armes qui vont faire peur à l'ennemi. Mais là, c'est une arme, vrai. C'est une épée. C'est la seule arme offensive. Puis l'épée chez les Romains, elle était très courte. C'est pour les combats de tout près. Mais avec le diable, on a des combats de tout près. Parfois, il nous talonne dès le matin et le soir quand on se couche et on est malheureux. L'épée représente la parole que le Saint-Esprit nous donne. Et je pense que dans notre journée, il faut commencer en lisant la parole de Dieu. Surtout quand on vit des choses difficiles dans la famille. Il y a quelqu'un qui peut bien nous parler, c'est le Seigneur. Et il y aura toujours une parole pour nous que le Saint-Esprit nous donnera. Parce que la parole, c'est l'épée, oui, mais du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va la conduire dans votre cœur et qui va éclairer votre cœur. Le Saint-Esprit a inspiré toute la Bible. Le Saint-Esprit est dans la Bible. Le Saint-Esprit est dans chaque page. Je ne cours pas le monde entier pour avoir le Saint-Esprit. J'ouvre la Bible et je dis, parle-moi Seigneur, je suis à ton écoute. Jésus a lutté au désert pendant 40 jours avec la parole de Dieu. Il est écrit, parce que cette force-là, elle permet de renverser les raisonnements, elle triomphe des tentations, elle agit dans les consciences, elle réveille. Que Dieu soit béni pour sa parole inspirée. Amen. Et la parole de Dieu, c'est la seule force de persuasion pour évangéliser. Pas autre chose. Seule la parole de Dieu contient totalement le Saint-Esprit. Alors, quand on annonce l'Évangile, quand on dit des versets, quand on prêche, quand on témoigne, le Saint-Esprit est là, dans la parole de Dieu. Amen. Et nous permet de résister au diable, ne laissez pas votre épée rouiller. Il y en a qui ouvrent leur Bible uniquement au culte. Il faut sortir son épée chaque jour, il faut lire chaque jour, il faut repasser et continuer, et le Seigneur vous parlera chaque jour. Il le fait bien pour moi. Eh bien, c'est la conclusion. On est arrivé à 6 armes. Mais la conclusion, j'ai envie de dire que c'est une 7e arme. C'est la prière. Parce que faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière. Parce que s'il n'y a pas la prière, le soldat, il est tout seul, il n'est pas en communication avec son capitaine. Il n'est pas encouragé, il n'est pas dirigé. Il fait tout ce qu'il veut, mais le capitaine n'est pas là. La prière donne de la force à nos armes. La prière donne de la vigueur à notre vie. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. En tout temps, tout doit être un sujet de prière. Les douleurs de la vie, les chagrins, les échecs, les joies, les revers, les succès. Tout doit être mis devant Dieu dans la prière. et prier pour tous les saints. Ça veut dire que le grand combat que nous menons, ce n'est pas que nous qui le menons, c'est aussi avec les autres. Prier pour que tous les autres reçoivent bien la vérité, reçoivent bien la foi et l'assurance du salut, pour que vous soyez un peuple combattant, combatif, pas agressif, pas désordonné, mais tous ensemble avec le Seigneur. Je conclue. En fait, c'est quoi ces armes? On m'a dit parfois, où est-ce qu'on peut les trouver? Supermarché, vous ne les trouverez pas. Hein, mais il n'y a pas un pasteur qui pourrait nous les donner. Je ne crois pas. Il n'y a pas une église qui a un petit stock d'armes dans ses greniers. Je ne pense pas. Ces armes, je vais peut-être vous décevoir un peu, parce qu'on aime bien sortir. Il y avait quelqu'un qui disait le matin, je sors mon épée, je mets mon bouclier. Mais tout était un mime, c'était un mime finalement. Mais ce n'est pas ça qui fait peur au diable. Mais ces armes, ce sont les qualités du Christ qui nous sont données. La vérité, la pureté, le courage, la foi, le salut, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Et si vous avez ces qualités en vous, vous avez les armes. Pas la peine de hurler. Vous avez les armes. Et quand le diable voit sur vous la foi, la pureté du Christ, la parole de Dieu, il s'en va. Amen. Il s'en va. Parce qu'il voit en vous Jésus-Christ. Il y a un pasteur qui nous racontait cette histoire. Je vous ai déjà raconté. Hein. Le diable qui frappe à la porte. Toc, toc, toc. C'est occupé. C'était Christ qui répondait. C'est occupé. Ah bon? Si on est occupé par le Christ, si on est rempli du Christ, de ses qualités, le diable sera mis en fuite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions. Nous t'invoquons, Seigneur, parce que le combat est rude. Ta parole est profonde et agissante. Et tes promesses sont certaines et véritables. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous combattons le bon combat de la foi. Mais c'est toi qui combats pour nous, qui mets tes mains sur nos mains. C'est toi qui es à nos côtés le jour et la nuit. Nous avons des épreuves, épreuves sur épreuves, chagrin sur chagrin. Et le diable, en tout cela, nous tente, nous harcèle. Mais Christ est avec nous. Et nous l'avons dit au début du culte, qui sera contre nous? Amen. Béni ce matin, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, arme nos bras, arme nos cœurs. Le combat est rude, le monde est difficile, mais le Seigneur nous tient bon et il est fidèle et juste. Amen. Prenez courage. Celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est contre vous. Prenez courage. Que personne ne se décourage en chemin. Il faut qu'on arrive au but. Il faut que tous, on arrive à la cité céleste. Il y aura des manquants, peut-être. Mais notre but aujourd'hui, c'est de dire, tous, nous voulons y arriver. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse.